Peu mieux faire, aïe! Souvenir de classe et de bulletin scolaire, collège Andara. Bon souvenir à quelques exceptions près, selon les matières, mais bon, au final, à l'arrivée, malgré le 1 en maths pour l'encre et le papier, avait dit le prof, et le 9 sur 20 en anglais, me voilà. My name is Pascal.
Pascal Paradou.
Ça commence par des questions. Avez-vous aimé l'école ? Avez-vous rêvé d'être prof ? Des questions scolaires dont les réponses donnent des diagrammes, des pourcentages et des statistiques. Et tout cela est normal, même si l'on est au théâtre, car ce sont deux anciens profs qui sont sur scène. Arnaud Hout, bonjour.
Bonjour.
Et Jérôme Pirondeux, bonjour.
Bonjour.
Deux anciens profs pour parler de l'école, sujet qui vous tient à cœur, même dans votre nouvelle vie de comédien. Ça reste central.
Bah, disons que c'est un peu notre expérience de 15 années sur les, enfin, dans les classes, et notamment dans une école technique et professionnelle. Donc on voulait parler d'où on pouvait parler de nous-mêmes, parler de notre expérience, parler de ce qu'on a vécu dans ces classes pendant 15 ans. Et oui, c'est un sujet qui s'est un peu imposé à nous comme ça, quoi.
Vous étiez ensemble dans le même collège.
Oui, voilà. On a été engagés le même jour.
Absolument.
Non.
Si.
Et on est devenus potes dans le couloir juste après l'entretien avec la directrice.
Clairement.
Et comment s'est fait le passage de la classe à la scène ?
Comment ça s'est fait ? D'abord, on a écrit une conférence, puis c'est devenu un spectacle qui s'appelle La Convivialité, un spectacle qui parlait d'orthographe, parce que c'était un sujet qui nous tenait à cœur aussi. Et on a eu la chance de très rapidement être repris dans des théâtres assez importants. La tournée est devenue de plus en plus conséquente, et on a quitté le boulot quand on a pu payer nos emprunts en étant sur scène.
Exactement.
Donc ça s'appelait La Convivialité ou La Faute d'orthographe,
oui.
Ce précédent spectacle qui a été créé en 2016. Donc c'est la preuve qu'on peut réussir sa vie, même si on commence en étant prof.
Absolument. Je ne cautionne pas du tout cette phrase.
Il y a de l'espoir pour les profs. Vous pouvez. Si le seul espoir des profs, c'est de quitter l'enseignement, c'est un peu triste quand même comme histoire.
Pourtant, c'est ce qui vous est arrivé.
Absolument. Mais nous, c'est un peu la nécessité qui a fait qu'on avait trop de dates et donc on a dû quitter l'enseignement. Mais on n'était pas des profs déprimés, dépités. D'autant que, en fait, faire des bonnes rencontres de collègues, en fait, travailler en collaboration avec Jérôme. Et avec d'autres collègues aussi, ça a été vraiment l'occasion de profiter de notre métier de prof pleinement. On ne s'y est pas vraiment ennuyé, on a quitté avant de s'ennuyer.
Et il faut être un peu comédien pour être prof.
Il y a une estrade déjà, donc ça peut ressembler aux planches de la scène. Et puis c'est vrai qu'un prof, ça fait les mêmes blagues chaque année en les peaufinant, les améliorant. Donc oui, il y a un point commun entre le prof et le comédien, sans aucun doute.
Vous êtes d'accord, Jérôme ?
Ah ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. Il y a aussi cette manière d'essayer de capter l'attention. Surtout que là, ils n'ont pas choisi d'être là. Donc il faut vraiment être particulièrement intéressant, intéressé. Et donc oui, je crois qu'on développe cette capacité de s'adresser, d'aller chercher l'intérêt.
Mais l'avantage du théâtre, c'est que, enfin pour les comédiens en tout cas, c'est que les spectateurs n'ont pas d'écran. On doit fermer son téléphone portable, etc. Alors qu'en classe, c'est possible d'avoir un écran, non ?
Non, on n'était pas trop confrontés à ce problème.
Disons que nous, on avait un rapport à l'écran qui était assez particulier parce que on sait que, en général, plus on lutte contre la présence des écrans, plus ils réapparaissent dans les mallettes ou en chemette, comme disaient les élèves, en traître. Mais nous, ce qu'on essayait, moi en tout cas dans mon cours, ce que j'essayais, c'est d'en faire aussi un outil de travail. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de faire n'importe quoi avec les écrans, c'était de pouvoir les utiliser comme un outil fonctionnel et d'éviter évidemment qu'ils soient mal utilisés.
Alors votre premier spectacle s'appelait La Convivialité ou La Faute d'orthographe. Votre spectacle actuel a un titre beaucoup plus court, il s'appelle Kevin. Pourquoi Kevin ? Parce que les Kevin sont les cancres.
Alors, on a voulu parler des élèves qui étaient en difficulté scolaire liée à leur indice socio-économique. Et donc, parce qu'on a travaillé avec des sociologues, et donc on a vraiment exploré toute la littérature sociologique sur les raisons qui font que notre école, l'école française et l'école belge, qui ont ça en commun, sont des écoles qui reproduisent particulièrement l'indice socio-économique des élèves dans les résultats scolaires. Et donc, on a travaillé sur un schéma de prénom de Baptiste Coulmont, qui a fait un schéma qui compare les mentions très bien au baccalauréat avec les prénoms des enfants. Et donc, dans ce schéma, on voit qu'effectivement, les Kevin, les Kylian, les Ryan ont tendance à moins bien réussir à l'école et que les Joséphine, les Diane ont de bien meilleurs résultats. Et donc, on est parti de cette boutade pour essayer d'un peu identifier les questions sociales dans l'école.
Mais je vois que vous parlez comme un sociologue. Cancre, ça n'existe plus. Hein. Je vous provoquais avec ce mot-là.
Nous, on ne considérait pas nos élèves comme des cancres, d'autant que souvent, les élèves ont des qualités extrascolaires qui sont assez impressionnantes. Et quand on apprend à les connaître, on se rend compte que tous les codes de l'école, donc le fait d'être un cancre, c'est souvent lié à certaines compétences, mais que les élèves ont évidemment bien d'autres compétences extrascolaires qui sont tout aussi valorisables. Et donc, on essaie d'éviter de les traiter de cancre.
Ouais, je me rappelle d'un élève en conseil de classe. Un prof disait qu'il était paresseux parce qu'il n'avait rien foutu à son cours, alors que le type, il avait un job d'étudiant et il allait à la salle 5 fois par semaine soulever de la fonte. Et ce n'est pas du tout l'image que j'ai d'un paresseux.
Non, c'est ça. Nos élèves n'étaient pas paresseux. Ils avaient juste d'autres centres d'intérêt que l'école, souvent, et non des moindres.
Et quelques handicaps, peut-être, d'ordre sociologique, économique ou autre?
Disons que alors le mot de handicap est particulier, puisque c'est vrai que moi je parlerais simplement de différence, c'est-à-dire que les classes favorisées ont tendance à être un peu plus école ready, comme on le disait dans l'écriture de spectacle, c'est-à-dire que les parents connaissent la valeur du scripto-centré, la valeur de tout ce qu'on enseigne à l'école, et commencent dès le plus jeune âge à entraîner leurs enfants à l'école, alors que les classes populaires ont tendance à être moins entraînées quand ils arrivent à l'école. Et donc, il y a une sorte de déséquilibre entre Kevin et Diane à l'arrivée à l'école, effectivement.
Vous savez que Kevin, c'est le prénom le plus donné en France entre 89 et 1994. Donc, vous vous privez quand même d'un gros public potentiel. D'ailleurs, vous ne posez pas la question, y a-t-il un Kevin dans la salle?
Si, on la pose dans le questionnaire d'entrée. On dit, comment tu t'appelles, Kevin ou autre?
Et, mais vous n'êtes pas sur scène encore.
Il y a très rarement des Kevin, évidemment, dans la salle, puisqu'on est au théâtre et que malheureusement, sociologiquement, on sait qu'il y a quand même une coloration sociologique aux gens qui vont au théâtre. Mais le spectacle ne s'adresse pas directement à Kevin. Le spectacle s'adresse aux gens, à nous, aux enseignants, aux gens qui vont au théâtre. On ne parle pas à la place de Kevin, on se met à la place des profs qui rencontrent des élèves comme Kevin et qui essayent de comprendre les difficultés de ses élèves.
Il s'appelle Ness. Alors, je ne connais rien de son parcours scolaire, mais il est présenté par les revues spécialisées comme l'étoile montante du rap. Et il sort un nouvel EP, 4 titres, pour de vrai.
S'il faut rapper, j'ai mes deux couilles, j'ai ma chebousse. S'il y a derrière, j'ai ma casquette. S'il y a des gouttes, j'ai ma stevée. C'est Salomon, mis la rage sur moi. Salomon ou palace avec les vœux, j'en bataille. Un chevalier citadin, observateur sur le champ de bataille. Grosse capuche, on est toujours au pluriel. On se couteau à pied, à plusieurs dans une pièce. Ça magouille, ça s'écoute pas. Ça fume, ça refait les toncards. J'ai bien étudié leur cas et en rap, ils ont pas mon quart. J'esquive les pigeons et les gueuches sur le mic, ça éclabousse avec la bouche. L'heure et les joints tournent, je vais bientôt y aller. Faut combler les jointures, esquiver la voie droite et les voitures. Je suis dans ma cave et je mûris comme du bon vin. Je fais des tracks pour me convaincre. Parfois je sors là, je suis dans le trône. Je me suis rempli d'artefacts. Faut pas se faire happer par les fads. Je garde une distance car ça peut bousiller ma trick. C'est un mal. Mental solide comme le mât. Le flow qui mouille comme le rose. Je suis défoncé comme l'euro. Nique un raciste plus sa fille. Nique ton avis dans la foulée. Je suis bien chez K dans la foulée. Et je marche comme si je suis recherché. Histoire que personne vienne faire chier. Je suis bien dans des skates, bas dans des birks, dans des clacks, dans des caves, dans des parcs. J'ai ma structure, je compte mes parts. Je gère ma DA et mon bif. Big up à The, big up à cela depuis le départ. Une main tendue vers une autre, c'est comme ça qu'on est d'un frère. Gros, je vais jamais lâcher le steak, voilà les plans qu'on élabore. Là, je suis à Paname, je suis dans le nord, je suis toujours pas sur une boussole, ça se bousille, je suis toujours pas dans un label ou dans une cage. Mettez-moi donc une case. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire. On n'a pas le même trajectoire, on rappe dans le même sens, on vise la même trajectoire.
N'ayez pas accroché à la terre ferme, légèrement sectaire. Faut que je vais trop mon texer. Faut que je témoigne avec mes frères ancestres. On se rappe dessus, c'est comme ça qu'on s'exerce. Hein. Kawa au joint, chacun son réveil, choisis ton camp. J'ai bien choisi mon plan, je sais où je vais, d'où je viens. Une dose de plus, ça tousse, on est tous siens. À 12 ou tout seul, je me la raconte pas. Je suis loin des stades, des stars et de la compète. Dans l'œil, j'ai un compas. Dans la gorge, j'ai des grosses flammes. Je rappe jusqu'à ce que la mélo se calme. Hein. Pour de vrai, on dirait que je rappe des ordres sur l'orque sur les ondes. J'suis pour de vrai, je vais pas te le dire deux fois, que tu sois qui que ce soit. J'suis focus, j'suis pas sous tease le soir. Mes démons dans l'oreille, j'les attends sur le ring. J'ai la passion qui abîme, j'suis heureux, j'ai sa main dans mes cheveux, son parfum sur mes habits.
Chevalier citadin, c'est Ness sur RFI. C'était notre récré aujourd'hui, puisque nous sommes à l'école avec Arnaud Hout et Jérôme Pironneux, deux anciens profs devenus auteurs, metteurs en scène et comédiens à l'affiche actuellement du Théâtre du Rond-Point avec Kevin, qui est un spectacle de théâtre, mais qui prend la forme d'une conférence sur l'échec scolaire, ou plutôt sur l'inégalité des chances. Et j'ai même envie d'aller jusqu'à dire sur l'hypocrisie des discours politiques. Qu'est-ce que vous en dites ?
Disons que nous, on ironise beaucoup sur cette notion d'égalité des chances en France et en Belgique, puisque à aucun moment, Kevin ou Diane, c'est-à-dire les élèves issus de milieux populaires ou issus de milieux favorisés, n'ont eu la même ligne de départ. C'est-à-dire que nous, on a tendance à penser que pour qu'il y ait une vraie égalité des chances, il faut qu'à un moment donné, même si on décide de donner à tous les mêmes chances de rentrer dans une sorte de compétition scolaire, il faut qu'à un moment donné, les inégalités soient partiellement nivelées par l'école. Et on sait que les élèves comme Kevin et Diane arrivent extrêmement inégaux dans leurs compétences en maternelle, donc à l'entrée à l'école, et que si on commence la sélection ou l'orientation des élèves trop tôt, comme on le fait pas mal en France et en Belgique, eh bien à aucun moment Kevin ne va pouvoir rattraper Diane, et donc il n'y a pas de vraie égalité des chances en France ou en Belgique. Et donc voilà, la condition sine qua non à l'égalité des chances, c'est l'égalité des résultats à un moment du parcours.
Les questions sont assez simples, c'est à quoi ça sert l'école et à qui ? Ce sont les questions centrales du spectacle.
Oui, c'est
et du système éducatif d'ailleurs.
Oui, c'est ça. En fait, quand on constate ces différences, c'est déjà beaucoup. Parce que ce qui est le plus dommageable, c'est de faire comme si tout le monde avait les mêmes chances. Parce que si on fait ça, alors ça veut dire que les résultats des élèves sont dus uniquement à leur propre mérite. Et donc, en fait, les résultats très différents socialement, les gens finissent par croire que ils en sont entièrement responsables. Et c'est ça le problème. Donc c'est là aussi qu'il faut essayer d'expliquer les choses pour qu'on n'attribue pas l'entièreté des compétences aux efforts des élèves ou à leur volonté. C'est ce fameux « quand on veut, on peut ». C'est ça qui, en fait, entérine des différences qui sont des acquis et pas des innés.
Oui, nous, ce qu'on a étudié, c'est surtout aussi les différences indépendamment du niveau réel des élèves issus de milieux défavorisés. C'est-à-dire que le niveau réel pourrait être très élevé, l'école accentue la différence entre Kevin et Diane plutôt que de simplement pouvoir reconnaître aussi leurs réelles compétences.
Mais si l'égalité des chances est un concept relativement récent, ce principe d'inégalité de l'école n'est pas très nouveau quand
non,
même.
Non, évidemment. Hein,
parce que vous nous replongez à l'occasion de ce spectacle dans l'histoire de l'école pour tous, qui est inventée, comme tout le monde le sait, avant de voir le spectacle, par Charlemagne.
Au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on entend parfois, Charlemagne n'a pas vraiment inventé l'école pour tous. Hein, l'image du bon roi encourageant les enfants pauvres à s'élever par le travail, ça c'est le Charlemagne fantasmé des manuels scolaires du 19e siècle.
Mais alors, bon sang, Jérôme, qui a eu cette idée folle ?
Non. L'école telle qu'on la connaît, donc des rangs, des bancs, des classes, ça date du XVIe siècle.
Oui, ce sont les jésuites qui, les tout premiers, vont inventer un nouveau modèle pédagogique fondé sur la guerre.
Oui, à l'époque, il n'y a pas de points. Alors on divise les élèves en deux camps, qu'on appelle les Romains et les Carthaginois. Et chaque élève est mis en compétition contre son alter ego du camp d'en face.
Suite à ces véritables batailles, on classait les élèves en trois catégories. Les optimi, donc les meilleurs. Les dubii, ceux où on ne sait pas trop, on doute. Et les inepti, ceux qui étaient inaptes et à qui on allait gentiment proposer d'éviter de se réinscrire parce que vous comprenez, l'année prochaine, ça risque d'être un tout petit peu compliqué pour lui vu le niveau d'exigence de l'école.
Ah, cette phrase. Arnaud, Jérôme Piron, cette classification, elle a un peu changé dans les termes, mais elle est toujours d'actualité.
Oui, absolument. On se rend compte que, c'est ce qu'on dit dans le spectacle, si un enseignant fait réussir tous ses élèves, on a tendance à trouver sa louche. Alors qu'en réalité, donc, l'objectif à la base, c'est ça, c'est d'amener un maximum d'élèves à la réussite. Et pourtant, le prof qui fait ça, il a tendance à se mettre les parents, les collègues, parfois même les directions sur le dos. On pourrait simplement se dire qu'il a fait du bon boulot. Donc on voit que derrière cette question de la réussite, il y a la question de la compétition, du paradigme compétitif qui pèse sur l'école, qui fait que les enseignants reproduisent cette idée de compétition et qu'il leur faut des perdants, d'une certaine manière. Et donc, c'est un peu aussi inégalitaire pour les élèves qui arrivent avec des capacités moindres dans ces écoles.
Avec cette explication que moi, j'ai découverte, parce que je ne suis pas prof et ni spécialisé dans l'éducation, vous racontez que si l'on met tous les bons ensemble et tous les mauvais ensemble, ça ne marche pas parce qu'ils ne seront pas tous bons ou tous mauvais. Il n'y a pas de classe homogène. Et dans ces classes des très bons, il y aura toujours des mauvais.
Ah oui, ça c'est l'effet de la courbe de Gauss, qu'on appelle aussi constante macabre. C'est que quel que soit le niveau réel des élèves, le prof va adapter son niveau jusqu'à obtenir un petit groupe de bons, un gros groupe moyen et un petit groupe de mauvais. Quel que soit le niveau à l'entrée dans la classe, c'est toujours ce type de résultat. Mais ça, c'est un constat qui est assez ancien aussi.
Ce qui crée un problème là-dedans, c'est aussi que ce paradigme compétitif, les élèves l'ont intégré également. Et donc, inconsciemment, l'élève a intérêt à voir ses camarades de classe perdre. Parce qu'en fait, dans un système compétitif, si on fonctionne par classement, vous avez intérêt à ce que l'autre soit en échec, puisque du coup, ça vous permet d'avoir plus de chances à point égal. Et donc, l'idée, c'est vraiment, nous, de réinterroger la collaboration, la coopération qui est pratiquement inexistante dans les classes et qui pourtant est réclamée dans le monde réel, dans l'entreprise ou ailleurs. Je pense que la collaboration peut, et on l'a vu avec les études, certaines études de sociologues et de chercheurs en sciences de l'éducation, la collaboration peut donner de meilleurs résultats parfois que la compétition. Mais on ne l'envisage jamais à l'école et c'est un peu dommage.
Donc le principe des classes de niveau, oui, qui est le hobby de notre nouveau Premier ministre, oui, je dis notre Premier ministre français en tout cas, vous en pensez quoi ?
Y a une chose assez simple. Le niveau du groupe a une influence sur les résultats des élèves. Ça, c'est étudié, c'est très clair. Quand vous êtes dans un groupe de très bons élèves, ça va vous tirer vers le haut. Vous allez indexer vos aspirations, par exemple. Vous allez aussi avoir un prof qui va être qui va avoir des attentes plus élevées. Ça va produire de meilleurs résultats, etc. Ça, on le sait. Donc, si vous voulez des très bons élèves, vous pouvez faire des groupes avec tous les meilleurs et vous atteindrez des sommets. Mais il y a un corollaire à ça. C'est que pour pouvoir mettre tous les bons dans un groupe, il faut mettre tous les mauvais dans un autre. Et quand on met tous les mauvais dans un autre, ça les tire vers le bas. Et ça, on oublie de le dire. C'est-à-dire, on sacrifie, en fait, le niveau d'une partie pour que les autres montent.
Oui, et donc il ne faut jamais oublier que quand on fait le résultat moyen de ces deux groupes, donc les groupes de bons et les groupes de mauvais, en règle générale, le niveau est moins élevé en moyenne que quand on fait de la mixité sociale. Et donc, toutes les recherches montrent que si on accepte de dire que l'école, c'est pour tout le monde, on posait la question tout à l'heure de à qui sert l'école, si on accepte que cette école ne soit pas destinée uniquement à créer 3 médailles Fields par an, mais plutôt à ce que tout le monde ait un niveau moyen en mathématiques en France, eh bien, il faut éviter, justement, de faire ces groupes de niveau qui sont relativement mortifères par rapport à ça.
Et tout cela est raconté dans votre spectacle, Kevin, avec des courbes et des diagrammes. Ils sont tous vrais?
Ah, oui. On a travaillé avec des sources.
J'ai presque l'impression de vous choquer.
Non, on peut citer. On a une bibliographie dans le spectacle qui est très détaillée et qui travaille avec les personnes de référence en sociologie de l'éducation, Marie Durubella, François Dubet, enfin on a aussi
Annabelle Alouche,
Dralens, Annabelle Alouche, tous des chercheurs et des chercheuses qui sont en tout cas universitaires et officiellement reconnus pour leur compétences.
C'est du sérieux.
La sociologie, ça pique. Et la sociologie de l'éducation, est à la sociologie ce que le restaurant thaïlandais est à la restauration. Ça pique fort. Vous prenez tous les élèves d'un même âge, mettons 15 ans, et vous les divisez en 4 catégories en fonction de leur indice socio-économique, des plus pauvres aux plus riches.
Bon, on dit les riches, les pauvres, mais c'est pour ne pas dire le quartile supérieur et le quartile inférieur de la population scolaire en fonction de leur indice socio-économique qui prend en compte le revenu des parents, leur diplôme, le taux de chômage ou la taille des habitations. Les riches,
les pauvres,
c'est juste plus pratique.
Vous prenez les 25% d'élèves les plus pauvres et vous calculez leur moyenne dans les 3 cours de base. Maths, français, sciences.
Vous prenez les 25% les plus riches. Vous faites la même chose et vous comparez.
En gros, vous mesurez l'écart de niveau entre les riches et les pauvres.
Eh bien, si on fait ça chez nous, on constate à 15 ans une différence de performance scolaire qui équivaut à 3 ans d'études.
Ça pique, je confirme.
Absolument, ça pique fort même.
Ça pique fort. Que répond le corps enseignant ? Que répondent... Alors, vous êtes au début de la création de ce spectacle, mais vous avez déjà joué en Belgique. Que disent les profs qui viennent vous voir ? Est-ce qu'ils se sentent mal à l'aise, mis en cause ?
Alors, il y a énormément des choses dans ce spectacle que les profs savent déjà, puisqu'on les a formés à ça aussi, on leur en a parlé. Mais je pense qu'il y a un constat d'ampleur, de gravité du problème qui est pas unanimement partagé et qui fait qu'effectivement, certains profs sortent de ce spectacle en se disant... On n'imaginait pas à quel point la reproduction sociale était si intense en Belgique et en France. Et donc, alors ça peut provoquer plusieurs réactions, ça peut provoquer parfois du découragement. En même temps, on prend ça plutôt avec un espoir, puisque à la fin du spectacle, on a aussi des solutions. On s'appuie sur tous les travaux de ces chercheurs et de ces chercheuses pour pouvoir améliorer nos systèmes scolaires. Et il y a aussi un très grand nombre de profs qui sortent en voulant se retrousser les manches et essayer de faire avancer les choses, quoi.
En tout cas, si je suis un futur parent, j'appelle mon enfant Joséphine.
Ah,
dans tous les cas de figure.
Ah, non, ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. On est sûr d'avoir le brevet quand on s'appelle Joséphine.
J'aurais bien aimé, mais non.
Non.
La sociologie, ça ne détermine pas un destin, ça calcule des moyennes. C'est ça qu'on explique aussi, c'est-à-dire qu'au cœur du spectacle, il y a aussi notre amour pour la sociologie elle-même. On a envie de faire découvrir aux gens cette discipline, comment elle fonctionne, quelles sont ses méthodes, quelles sont ses découvertes les plus récentes. Et c'est aussi ça, c'est comme on a fait avec la linguistique dans le premier spectacle, c'est une sorte de déclaration d'amour aux sciences humaines.
Oui, mais quand même, je me dis, j'espère avoir une fille.
Ah oui,
qu'un garçon, parce que vous dites que les filles sont meilleures.
Bah, à l'école, effectivement, depuis qu'on a des statistiques là-dessus, et depuis que les écoles sont mixtes, donc que les garçons sont scolarisés avec les filles, elles ont à peu près partout et dans à peu près toutes les matières de meilleurs résultats que les garçons. Et donc, on constate que grâce à la méritocratie aujourd'hui, elles occupent en effet tous les postes à responsabilité.
Mais pourquoi elles sont meilleures ? Vous expliquez cela par le principe de collaboration.
Ah, c'est une des raisons, effectivement.
Oui.
On a eu des textes qui détaillent ces questions, parce que les chercheurs et les chercheuses se sont interrogés sur les raisons qui faisaient que les filles étaient meilleures. Alors, il y en a plein, hein, évidemment. Mais une des raisons, et c'est celle qui nous intéressait, c'est qu'à l'école, les filles collaborent davantage. Elles s'entraident, elles se refilent leurs notes, alors que les garçons sont plus souvent pris dans des paradigmes compétitifs. Et donc, c'est une des manières aussi de prouver que la collaboration peut avoir des effets positifs sur le niveau des élèves en moyenne.
Mais la compétition, c'est un peu le mal de l'éducation nationale, non ?
Oui, la compétition et la sélection. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure du permis de conduire. Nous, ça a été vraiment un exemple qui nous a fait comprendre beaucoup de choses. Le permis de conduire, on met un certain niveau et tous ceux qui atteignent ce niveau ont le permis. Il n'y a pas un nombre prédéterminé. Et d'ailleurs, si on veut, on peut s'entraider pour apprendre le code quand on va aller le passer. Alors que quand on est dans un paradigme compétitif, il y a un nombre limité. Alors on a l'impression que les programmes d'enseignement définissent un niveau qu'il faut atteindre et que du coup, c'est comme le permis de conduire. Tous ceux qui respectent les prérequis du programme auront leur diplôme, etc. En réalité, ce n'est pas ça qui se passe, puisque le niveau varie en fonction des écoles. Il y a des écoles qui mettent la barre plus haut que ce que demande le programme. Et donc, en fait, comme la barre bouge en fonction du niveau des gens, on est dans un paradigme qui est compétitif, mais qui ne le dit pas.
Arnaud Hout, Jérôme Piron, vous parlez donc d'éducation nationale, vous parlez de sociologie, vous parlez aussi de vous dans ce spectacle, Kevin.
On n'a pas tous le même rapport au savoir, à la connaissance, à la culture. D'ailleurs, le métier des parents dont les enfants réussissent le mieux à l'école, c'est prof.
Oui, ceci dit, avoir des parents profs, c'est l'enfer. Pendant le confinement, avec les enfants, on a fait du pain. L'occasion de revoir la règle de 3 en pesant la farine.
Mon fils s'appelle Auguste. Quand il m'a demandé des Ninjago, il a reçu des Lego architecture.
Moi, ma fille, elle s'appelle Léonie. Et quand elle m'a demandé pour regarder La Reine des Neiges, je lui ai montré Peau d'âne.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents.
Alors, je ne suis ni prof ni fils de prof, mais Peau d'âne, quand même, je trouve que c'est génial.
Oui, c'est génial.
Delphine Seyrig, pour... Catherine Deneuve.
D'accord, mais pour les enfants d'aujourd'hui, c'est presque, ça confine à la maltraitance.
Vous trouvez ? Mais moi, je serais Gabriel Attal, je déciderais la projection de Peau d'âne obligatoire.
Pourquoi
une
pas,
fois par
oui,
an.
Je pense. Bah, après, c'est plus les mêmes codes. Elle a aussi vu La Reine des Neiges, je vous rassure, on a fait un peu une comparaison des deux.
Mais vous trouvez vraiment que c'est de la maltraitance ?
Non, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, on a tendance quand même, nous, en tant que parents de milieux favorisés, à entraîner nos enfants à un rapport au cinéma, par exemple, qui est déjà réflexif, déjà un peu avec une dimension plus intellectuelle, plus ironique, plus distanciée. Et on ne considère pas le cinéma comme un pur divertissement, ce qui est intéressant, puisqu'on demande au public à un moment donné, dans le spectacle, dans le questionnaire d'origine, c'est quoi pour vous un bon film, un bon scénario, une bonne mise en scène? Et puis, il y a un film que j'aime, et on constate que même au théâtre, un bon 70% des gens répondent d'abord un film que j'aime. Et donc ce rapport un peu intellectualisant au cinéma est un truc unanimement partagé, mais qui parfois est un peu complexé chez les gens issus de classes favorisées, puisqu'en fait profiter d'un bon film sans trop se poser de questions, c'est pas mal aussi.
Oui, mais revoir un bon film et s'apercevoir qu'il est bon pour toute une série de raisons, c'est pas mal aussi.
Non, mais absolument.
Même.
Nous, on n'est pas là pour dévaloriser Peau d'âne, qui est un très bon film, mais l'idée, c'est d'interroger le rapport au cinéma.
Parce que sinon, on se serait quitté fâché. À propos, il y a quelques questions au début du spectacle, mais vous y répondez pas vraiment. Vous avez aimé l'école ?
Alors, moi, j'ai eu un rapport ambigu à l'école parce que moi, j'ai pas nécessairement aimé l'école, mais l'école m'a beaucoup aimé. C'est-à-dire que j'avais donc ce capital et cette capacité à passer pour un bon élève très tôt en primaire. Et j'ai l'impression que je me suis appuyé sur ce capital de bagou, d'aptitude qui était extrascolaire pour être considéré comme un bon élève, même quand je foutais rien. Et donc, j'ai très peu travaillé et je m'en suis sorti de manière assez bonne à l'école.
Arnaud.
Voilà, c'est moi.
Jérôme.
Moi, l'école, j'ai un rapport, je crois, profondément normal à l'école. C'était un truc pas terrible, je le fais parce que je devais. Je brillais pas spécialement, mes parents étaient contents, c'était ça mon objectif. Je pense avoir appris quelques trucs, mais je pense avoir surtout oublié la majorité. Et puis, ça s'est passé sans trop de douleur, on va dire ça comme ça.
Et aujourd'hui, vous êtes sur scène au Théâtre du Rond-Point avec ce spectacle, Kevin. Et une attirance quand même particulière pour les prénoms, puisque vous avez créé une compagnie qui s'appelle Chantal et Bernadette.
Oui, on salue nos mamans.
Oui,
vos
c'est
mamans.
Ça. C'est
bonjour maman,
maman. Voilà,
tout à fait. Qui m'écoutera certainement.
Bonjour maman. Merci Arnaud Heuth, merci Jérôme Piron. Kevin se joue jusqu'au 11 mai au Théâtre du Rond-Point à Paris. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Labolo, Laura Pinto à la réalisation. À très vite.